Nous sommes dans notre étude de l'Ancien Testament. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair qu'au début de l'année sur les différents livres de l'Ancien Testament. On a d'abord eu une introduction à l'Écriture Sainte pour vous montrer un petit peu la part du Saint-Esprit et la part des hagiographes, donc des écrivains sacrés dans la Sainte Écriture. Ensuite, pour vous donner une grande vénération pour la Bible, pour vous aider à bien à la lire avec un esprit de foi. Ensuite, nous avons étudié des livres historiques pour connaître un petit peu les premiers livres de la Sainte Écriture. Après cela, on a vu la deuxième catégorie de livres de l'Ancien Testament, les livres sapientiaux, les livres de la sagesse, avec l'étude du livre de Job et du livre des psaumes. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la dernière catégorie des livres de l'Ancien Testament, la catégorie des livres prophétiques, avec l'étude en particulier du prophète Isaïe. Mais comme je l'avais fait pour les autres conférences, je voudrais tout d'abord vous donner une introduction assez longue pour mieux vous faire connaître la mission des prophètes dans l'Ancien Testament. Donc cet exposé va se dérouler en 5 parties. Tout d'abord une introduction au livre prophétique. Ensuite nous verrons le choix d'Isaïe, pourquoi on a choisi le prophète Isaïe. On verra ensuite un aperçu historique et géographique des événements donc, qui ont entouré le prophète Isaïe à partir du document que je vous ai passé. On verra quelques événements de sa vie qui sont tirés du livre des rois et du livre des chroniques. Ceci vous montre que si on peut faire un découpage entre livres historiques, livres sapientiaux et livres prophétiques, malgré tout, il y a des liens entre eux. Et ainsi, on parle d'Isaïe déjà dans les livres historiques. Et on en parle aussi d'ailleurs même dans les livres sapientiaux, en particulier dans le livre de l'Ecclésiastique. Et c'est pourquoi il est important, si on veut ne pas faire de contresens sur la Bible, de connaître l'ensemble de la Bible. Parce que beaucoup d'éléments de la Bible sont commentés par d'autres passages de la Bible. Et enfin, nous étudierons un petit peu, rapidement, succinctement, le livre d'Isaïe. On verra d'abord son authenticité, et puis ensuite, on terminera par son contenu. Alors, introduction générale aux prophètes et aux prophéties. Nom et fonction des prophètes. Commençons par définir le terme de prophétie. Le terme de prophétie a deux sens. Le sens habituel, en général, quand on parle d'une prophétie, il s'agit de l'annonce d'événements futurs contingents. Contingents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Prévoir que Noël cette année tombera le 25 décembre, ce n'est pas du domaine de la prophétie. Donc ce sont des événements futurs, mais contingents, c'est-à-dire qui dépendent du libre arbitre de l'homme, et par conséquent qu'on ne peut pas prévoir. Mais dans l'Ancien Testament, le terme de prophétie a un sens qui est beaucoup plus vaste. En effet, le terme prophétie a une double signification. La première, qui vient d'ailleurs de sa racine, donc du point de vue étymologique, pro, ça veut dire avant, donc montrer d'avance, mais ça peut vouloir dire aussi parler au nom d'eux. Et le terme de prophétie dans l'Ancien Testament, c'est plutôt justement ce terme-là. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui manifeste aux hommes ce que Dieu lui a révélé. Donc c'est un sens qui est beaucoup plus large. Et en ce sens, on pourra dire que le prophète par excellence, c'est notre Seigneur. Un Seigneur qui parle au nom de son Père, puisqu'il est lui-même le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu. Et par conséquent aussi, notre Seigneur est le dernier des prophètes, puisque notre Seigneur, ayant révélé tout ce qu'il y avait à révéler sur son Père, il n'y a plus de raison d'attendre un nouveau prophète. Donc c'est pas la peine de faire des allusions ici à d'autres religions. Je pense que vous m'avez compris. Donc la prophétie n'est pas exclusivement une prédiction, mais un enseignement religieux et moral qui est destiné à conserver l'alliance qui a été contractée avec Dieu. Et on peut dire que la prophétie est le moyen ordinaire par lequel le bon Dieu s'est fait connaître à son peuple dans l'Ancien Testament pour rappeler la vraie doctrine. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui dans le Nouveau Testament, donc dans l'Église, ce sont les conciles qui définissent ce qu'il faut croire pour aller au ciel, et bien là, il y avait bien sûr le code de la loi qui était établi dans les livres historiques, et en particulier les premiers livres de l'Ancien Testament. Mais malgré tout, il était nécessaire que le bon Dieu envoie des prophètes pour rappeler la loi, pour rappeler l'homme à l'ordre. Puisque, eu égard à notre nature déchue, malheureusement, nous avons toujours tendance à nous écarter de Dieu. Donc la mission du prophète, c'est de rappeler aux hommes la volonté de Dieu. Le prophétisme est annoncé dans l'Ancien Testament au livre du Deutéronome, donc le cinquième livre du Pentateuque, donc des cinq premiers livres de la Sainte Écriture. Au chapitre 18, donc le Deutéronome qui rappelle la loi de Dieu qui a été révélée à Moïse. Au chapitre 18, versets 9 et suivants, il est dit ceci. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. « Quand tu seras entré dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, donc des nations païennes. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, aux augures, aux sorcelleries et aux incantations, qui ait recours au charme, qui prononce des oracles des esprits même familiers et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Yahvé. Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu va chasser ces nations devant toi. » Alors quand on compare rien que ce texte de la Sainte Écriture à ce que le Saint-Père a fait il y a peu de temps encore, eh bien on se dit, il y a quelque chose qui cloche, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. « Tu seras parfait avec Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu vas chasser écoutent les augures et les devins, mais à toi Yahvé ton Dieu ne le permet pas. Yahvé ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. » Alors le prophète par excellence qui est annoncé, c'est notre Seigneur, mais ce sont aussi tous les prophètes qui viendront entre Moïse et notre Seigneur. C'est ce que tu as demandé à Yahvé ton Dieu en Horeb le jour de l'assemblée en disant « Je ne veux plus entendre la voix de Yahvé mon Dieu et je ne veux plus voir ce grand feu de peur de mourir. » Donc ça fait appel à ce moment où Moïse est redescendu du mont Sinaï et où le peuple hébreu avait entendu la voix de Dieu sous la forme de tremblements de terre, si bien qu'ils avaient très peur. Et ils disaient qu'ils ne voulaient plus entendre la voix de Dieu, mais ils voulaient que ce soit des prophètes qui interviennent pour faire connaître ce que le bon Dieu attendait d'eux. Yahvé me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai d'entre les frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aurait la présomption de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. » Donc c'est toujours pareil, il y a le vrai Dieu, puis il y a les autres dieux, les faux dieux. « Que si tu dis dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que Yahvé n'aura pas dite, hein? Quand le prophète aura parlé au nom de Yahvé, si ce qu'il a dit n'arrive pas et ne se réalise pas, c'est là la parole que Yahvé n'a pas dite. Hein? C'est par présomption que le prophète l'a dite, tu n'auras pas peur de lui. » Donc, quand le prophète parle au nom de Dieu, ses prophéties se réalisent. Alors maintenant, après l'existence de la prophétie, telle qu'elle est donc définie dans ce passage de la Sainte Écriture, voyons-en la nature. Eh bien, on peut dire de la prophétie ce que l'on a dit de l'inspiration dans la Sainte Écriture. De la même manière que dans la Sainte Écriture, l'auteur principal est Dieu, et l'écrivain sacré n'est que l'instrument entre les mains de Dieu, ici, c'est la même chose. Le prophète n'est que l'instrument entre les mains de Dieu. C'est d'ailleurs le passage que j'ai lu tout à l'heure, Dieu qui dit, je mettrai mes paroles dans la bouche du prophète. Donc, je mettrai mes paroles dans la bouche du prophète. Le prophète ne fait qu'exprimer la parole de Dieu. Donc, il n'est que l'organe par lequel Dieu parle. Mais c'est Dieu qui parle. Donc, Dieu illumine d'abord l'intelligence du prophète pour lui faire connaître le message à transmettre. Et ensuite, il meut la volonté du prophète pour qu'il transmette ce qu'il a reçu. On peut dire que cette illumination est un don gratuit de Dieu, mais qui est transitoire. C'est-à-dire qu'en dehors de la prophétie, le prophète est laissé à ses forces naturelles, un petit peu comme les voyants. Quand un voyant voit la Sainte Vierge et qu'il transmet ce que la Sainte Vierge lui a dit, dans cette transmission, il a une certaine illumination, mais ce n'est pas parce qu'il a cette illumination qui lui vient de la Sainte Vierge pour un message précis qu'il doit transmettre, que cette même personne a le charisme de l'infaillibilité dès qu'elle ouvre la bouche. C'est ce qui explique d'ailleurs beaucoup d'exagérations qui ont pu être faites au sujet des voyants. Dès qu'on parle qu'il y a une apparition, eh bien tout de suite la personne va, on va essayer de voir la personne qui a une vision pour lui interroger, pour savoir si on doit rentrer au couvent, on doit se marier, est-ce qu'on doit se marier avec un tel ou avec un tel. Est-ce qu'on va guérir de la maladie? Est-ce que la personne qui est au purgatoire, est-ce qu'elle est encore au purgatoire ou est-ce qu'elle est au ciel? Et donc on lui pose 36 000 questions parce qu'elle a vu la Sainte Vierge. Donc il faut bien se dire, ce charisme est un charisme qui n'est pas perpétuel mais qui est transitoire. Par ailleurs, quelques remarques. Dieu s'accommode à la mentalité de chaque prophète, si bien que le style d'Isaïe ne sera pas celui de Jérémie, comme les écrits de Saint Matthieu, le style de Saint Matthieu n'est pas celui de Saint Jean. Donc Dieu se sert du prophète comme d'un instrument, mais selon les qualités de l'instrument. Si vous avez un stylo qui marche bien, votre écriture sera plus belle qu'avec un stylo qui marche mal. Donc le message cependant sera le même. Donc le bon Dieu ainsi se sert des talents de chacun des prophètes à qui il a donné cette mission de prophétiser. Par ailleurs, autre aspect très important, c'est que les prophètes semblent manquer de perspective chronologique, parce que le prophète voit dans le miroir de l'éternité. Et c'est pourquoi il est toujours très difficile d'interpréter les prophéties, surtout avant leur réalisation. Après la réalisation, on voit très bien que la prophétie, en effet, s'est bien réalisée, mais avant... On peut savoir, par exemple, si c'est un malheur qui est produit, qui est prédit, qu'il va y avoir un malheur, bon, ça c'est sûr. Mais ensuite, on ne doit pas prendre forcément la prophétie au pied de la lettre. Par exemple, si l'on voit la prophétie d'Isaïe concernant l'invasion assyrienne, la Syrie qui devait envahir Jérusalem. Il y a des tas de détails qui sont donnés concernant le siège de Jérusalem par Sennacherib. Mais si vous regardez ensuite les autres livres qui racontent, les autres passages de la Sainte Écriture qui racontent ce siège de Jérusalem, eh bien le trajet de Sennacherib n'est pas tout à fait identique à celui qui avait été prédit. Tout simplement parce que le but d'Isaïe, en prédisant ce siège, il n'avait pas pour but d'expliquer dans les moindres détails comment ça allait se passer, mais de montrer la violence de cette invasion assyrienne. Donc on ne doit pas prendre toujours les choses au pied de la lettre. Également, le genre prophétique n'est pas le genre historique. Il se rapproche plutôt de la poésie. Donc c'est toujours un style littéraire qui est poétique et donc qui n'est pas toujours à prendre au sens non plus au sens littéral. Ensuite, il y a des cas particuliers de prophétie, c'est la prophétie de Caïphe. Caïphe qui prophétise en disant « Il vaut mieux qu'un homme meure pour le bien de tout le peuple. » Donc dans ce cas, c'était une prophétie un peu particulière puisqu'il n'avait pas conscience au moment où il prophétisait cela qu'en fait il prophétisait. Un autre cas particulier, c'est celui du songe du Pharaon. Le Pharaon qui a du temps de Joseph, qui a ses songes, et Joseph qui a justement pour mission de révéler le sens des prophéties du Pharaon. Donc là, c'était un petit peu une prophétie en deux temps, dans la mesure où, un, à la prophétie, mais est incapable de l'interpréter. Et ensuite, il a fallu l'intervention de Joseph pour interpréter le songe du Pharaon. Les oracles prophétiques se font de trois manières, soit par parole, soit par écrit, ou soit par action symbolique. Les prophètes orateurs n'ont pas laissé d'écrits qui nous sont parvenus. Les discours concernaient alors plutôt les contemporains. Les écrits, ce sont des recueils d'oracles qui ont été prononcés par les prophètes, mais sans ordre logique ni chronologique. Si bien qu'on se perd aussi un petit peu. Isaïe passe souvent d'un sujet à l'autre sans transition. Et on voit d'ailleurs toutes les prophéties, même celle qui annonce la Vierge qui enfante, elle arrive là, mais elle tombe un peu comme, on a l'impression qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et également les prophéties de la Passion de notre Seigneur, selon Isaïe, on les trouve, mais parsemées dans le livre d'Isaïe. Ce n'est pas « maintenant je vais prophétiser ce que va faire le futur prophète, le grand prophète, le Messie attendu, il va faire ceci, ceci et cela ». C'est on parle de choses et d'autres, et puis tout d'un coup, il y a ce passage. Et ceci s'explique toujours pour la même raison, c'est que nous, bien sûr, on est prisonniers du temps, donc on a toujours besoin de raisonner avec le temps, en disant est-ce que ce sera avant, est-ce que ce sera après. C'est d'ailleurs vrai de l'Apocalypse, hein, il y a des choses de l'Apocalypse du livre de l'Apocalypse qui concernent la destruction de Jérusalem, et d'autres qui concernent ce qui se produira à la fin des temps. Donc il y a parfois le passage de l'un à l'autre, parce que pour le bon Dieu, l'éternité, qui est dans son éternité, 1000 ans est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Et ensuite, donc, troisième manière de prophétiser, ce sont les actions symboliques. Ainsi, par exemple, le manteau d'Aïas, qui est coupé en morceaux, a pour but de symboliser la séparation qu'il y aura entre Roboam et Jéroboam. Donc Roboam, qui était le fils de Salomon, du royaume de Juda, et il se trouve que les 10 autres tribus vont se séparer du royaume de Juda et de Benjamin. Et pour symboliser ce schisme, cette division, eh bien, le manteau d'Aïas a été coupé en morceaux. Autre exemple d'action symbolique sous le prophète Jérémie, c'est le joug. Ainsi m'a parlé Yahvé, fais-toi des liens et des traverses. Donc les joues qu'on mettait derrière la tête des bœufs, et mets-les sur ton cou, puis envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, et au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon. Donc tous ces royaumes-là, vous les trouvez au moins une partie au bas de la carte. Édom, Ammon. Donc c'était tous ces territoires qui se trouvaient à l'extérieur du royaume d'Israël. Et le but de ce joug, c'était de prévenir les rois de ces royaumes qu'ils allaient devoir subir le joug du roi de Babylone. Ils devraient un jour être assujettis au roi de Babylone. Alors le bon Dieu utilise cette forme d'action symbolique. Alors il est possible que certaines actions symboliques n'aient pas été exécutées et n'aient eu qu'une valeur idéale, semblable aux paraboles de notre Seigneur. Ainsi par exemple, quand on voit la coupe de vin de Jérémie, « Ainsi m'a parlé Yahvé, prends de ma main cette coupe de vin capiteux et fais-en boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Elles en boiront, elles tituberont, saisies d'égarement à cause de l'épée dont je les atteindrai. » Donc c'était bien sûr une action symbolique, mais qui ne s'est pas réalisée. Ou encore Ézéchiel, on demande le bon Dieu qui lui demande de se coucher plus de 300 jours sur le côté gauche. Ça nous paraît un peu curieux, ces images, mais le bon Dieu parle sous cette forme. Adapté aussi à l'esprit très imagé du peuple hébreu. Et très concret. Donc l'objet de ces oracles prophétiques, soit qu'ils annoncent des événements futurs proches, soit qu'ils annoncent un avenir beaucoup plus lointain. Et la réalisation des premières prophéties, donc de ce qui doit se passer sous leurs yeux, sous les yeux des contemporains, est la garantie de ce qui se passera plus tard. Maintenant, un mot du ministère prophétique. La mission du prophète n'était pas réservée à une tribu ni à une classe particulière, à la différence des prêtres. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient être de la tribu de Lévi. Ceux qui n'étaient pas de la tribu de Lévi ne pouvaient pas aspirer à cette fonction de prêtre. d'où le nom de lévite, pour indiquer les clercs, pour signifier le terme de clerc. Donc Dieu choisissait, lui, pour les prophètes, comme bon lui semblait. Pour exercer cette mission de prophète, il n'y a pas non plus de préparation préalable. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas 6 ans de séminaire pour apprendre à être un bon prophète. Il n'y a pas non plus de consécration par un rite extérieur, bien qu'il y ait eu un rite inaugural pour Isaïe. On voit cela au chapitre 6 d'Isaïe. Il reçoit un charbon ardent sur la bouche qui lui vient d'un ange du ciel. Donc on lira ce passage tout à l'heure. Et ce passage qui est d'ailleurs lu par les prêtres avant l'évangile. On demande de purifier la bouche du prêtre avant qu'il prononce l'évangile, de la même manière que celle d'Isaïe a été purifiée par le charbon ardent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le prophète n'était pas illuminé par Dieu de façon habituelle, ni quand le prophète le voulait. Cette mission de prophète est donc extraordinaire quant à son mode. Cependant, on peut dire qu'elle est ordinaire dans le sens où elle s'est répandue d'une manière ininterrompue depuis Moïse jusqu'à notre Seigneur. Alors maintenant, voyons un peu le rôle du prophète, hein, du point de vue religieux tout d'abord. Le prophète est l'ambassadeur de Dieu, qui a pour but de conserver le monothéisme et de combattre l'idolâtrie envahissante des peuples voisins et du peuple hébreu lui-même. Toujours, dans l'Ancien Testament, c'est un leitmotiv. Il y a vraiment le souci de Dieu de préserver son peuple des faux dieux. Il y a le vrai Dieu, qui est le Dieu qui est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, qui est le vrai Dieu, à Moïse, et tous les autres sont des faux dieux. Également, une autre mission du prophète, c'est d'expliquer les fléaux de Dieu. Ainsi, par exemple, Ézéchiel sera un prophète du temps de la déportation de Babylone. Et il a pour but d'expliquer à ses contemporains, que s'ils sont déportés, c'est en raison de leur péché. Donc il y a toujours ce rapport, très net aussi dans l'Ancien Testament, entre les misères qui nous arrivent sur la terre, les malheurs, les guerres, et le péché. Par ailleurs, l'institution prophétique semble surpasser le sacerdoce, puisqu'elle remonte à Moïse, auquel Aaron était soumis. Vous savez qu'Aaron était le premier grand prêtre. Et ce n'était pas Aaron qui a dirigé le peuple vers la terre promise, mais c'était Moïse qui était chargé de diriger le peuple. Donc c'était le prophète, comme on l'avait dit la dernière fois quand on a étudié Moïse. Donc là, le grand prêtre était soumis au prophète. Le prophète est donc un défenseur intrépide de la loi mosaïque. Il n'hésite pas à reprendre les rois et les gens puissants. Et également, autre fonction, bien sûr, qui existe aussi, et à laquelle nous connaissons mieux, le but du prophète, c'était bien sûr d'annoncer la venue du Messie et de préciser les caractéristiques du Messie, afin qu'on puisse le reconnaître le jour où il viendrait. Au-delà de ce rôle religieux, le prophète a aussi un rôle politique. On voit les prophètes qui interviennent pour sacrer les rois. Également pour donner des conseils aux rois. Par exemple, pour leur dire de ne pas faire alliance avec les nations païennes, toujours ce même souci, pour repousser d'autres ennemis, mais de mettre leur confiance en Dieu seul. Ainsi, par exemple, le prophète Jérémie va rappeler aux rois qu'ils n'ont pas à craindre Babylone, c'était en ce moment-là la puissance la plus élevée à cette époque, car Dieu protège son peuple. Il ne doit pas s'appuyer sur l'Égypte, donc il ne doit pas rechercher une alliance auprès de l'Égypte pour lutter contre Babylone, mais il doit mettre sa confiance en Dieu seul. Et ils ont même aussi un rôle dans la vie privée. On voit les prophètes qui donnaient des oracles aux fidèles. C'est un peu un contre-exemple de ce que je disais tout à l'heure concernant les voyants. C'est vrai qu'ils ont eu, au moins, bon, peut-être qu'ils ne répondaient pas à toutes les questions qui leur étaient posées, mais malgré tout, ils avaient un rôle particulier pour donner des conseils particuliers donc aux fidèles. Et dans le même souci, le bon Dieu l'avait permis pour éviter que les fidèles aillent recourir aux devins. Et ainsi, par exemple, une chose qui est purement matérielle, il y a Saul qui avait perdu ses ânesses. Alors il va consulter le prophète Samuel. Et Samuel lui dit, quant à tes ânesses perdues il y a 3 jours, ne t'en inquiète pas car elles sont retrouvées. Donc même concernant des choses tout à fait anodines et matérielles, les prophètes avaient parfois une grâce particulière pour les discerner. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons particuliers, qui sont indéniables. Ensuite, la réalisation des prophéties. Les prophéties ont eu un rôle très important du point de vue apologétique, c'est-à-dire du point de vue de la défense de notre foi, pour montrer que notre religion est la vraie religion. Un argument qui est très fort, c'est celui des prophéties qui sont réalisées. Dans la mesure où vous pouvez prouver que ces prophéties ont bien été annoncées plusieurs siècles à l'avance, dans des détails, avec des détails précis, qui ne pouvaient absolument pas être imaginés avec notre esprit humain, et quand on voit que ces prophéties se réalisent à la lettre, des prophéties qui ont été donc échelonnées sur plusieurs siècles, par des prophètes différents, de milieux différents, d'époques différentes, et se réaliser toutes au pied de la lettre par le même prophète, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est une des preuves les plus indéniables de la divinité de notre Seigneur. C'est d'ailleurs ce qu'on en dit dans le credo qu'on chante le dimanche. Je crois au Saint-Esprit qui a parlé par les prophètes. Et notre Seigneur lui-même a utilisé cet argument apologétique. Il disait, scrutez les Écritures, les prophètes l'ont dit. Ce que je fais, les prophètes l'ont dit. Donc regardez. Le nombre et la division des prophètes. Dans l'Ancien Testament, on peut noter l'existence de 4 grands prophètes et de 12 petits prophètes. Alors, si je ne vous demande pas pour la prochaine fois d'apprendre les 12 petits prophètes, vous pourriez au moins apprendre les 4 grands prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Tout catholique doit connaître au moins ça. Le prophète Isaïe donc, a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque assyrienne, c'est l'époque de la où c'était l'empire assyrien qui dominait. Tandis que les 3 autres prophètes, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, vivront plus tard, à l'époque babylonienne, donc au 7e siècle et au 6e siècle avant Jésus-Christ. Quant aux 12 petits prophètes, il s'agit de Jonas, Amos, Osée, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Joël, Abdias, Agée, Zacharie et Malachie. Le dernier étant Malachie. Malachie qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc à l'époque des Perses. Alors pourquoi avoir choisi Isaïe? Eh bien Isaïe occupe dans la Bible la première place parmi les prophètes au sens strict, c'est-à-dire parmi les prophètes que je viens de citer. Du point de vue chronologique, il se place avant Jérémie, Ézéchiel et Daniel, qui sont les autres grands prophètes. Son livre occupe la première place tout d'abord quant à son étendue. Il y a 66 chapitres. Et en raison de la variété des sujets abordés, appel au repentir, annonce messianique, historique, etc. Également en raison du contenu des révélations extraordinaires. C'est à Isaïe que l'on doit la prophétie de la Vierge enfantant. Ce passage d'ailleurs qu'on a lu le 25 mars pour l'Annonciation, du temps du roi Achaz. Donc l'épître de la messe de l'Annonciation est tiré du prophète Isaïe. Enfin, de l'annonce d'Isaïe plus exactement, puisque ce n'était pas dans les prophéties d'Isaïe, mais dans d'autres textes que cela avait été prédit. Et également celle du Messie souffrant. Et on trouve même des révélations sur l'avenir de l'Église, puisque dans le livre de l'Ecclésiastique, il est écrit « Isaïe le prophète fut grand et véridique dans ses visions. Pendant ses jours, le soleil rétrograda. » Donc on verra ce passage tout à l'heure. Et Dieu prolongea la vie du roi. On verra aussi cela. Par un puissant esprit, il vit les derniers temps et consola la fille de Sion. Donc il vit les derniers temps, ce qui montre qu'il a eu des visions même sur la fin des temps. Il annonça l'avenir jusqu'à l'éternité et les choses cachées avant leur accomplissement. Isaïe occupe encore la première place en raison de son style. C'est un homme lettré qui unit à la fois la grandeur et la simplicité. La première partie du Sanctus, que l'on chante à la messe, c'est une révélation d'Isaïe. Isaïe qui voit les anges qui chantent Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenissunt celi et terra, gloria tua. Cette partie-là, c'est une vision du prophète Isaïe. Également, il y a toute une révélation de l'éternité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient toujours ce sens de la grandeur de Dieu. Ainsi, Isaïe dit, Yahvé est un Dieu éternel qui a créé jusqu'en ses extrémités la terre, qui ne se fatigue ni ne se lasse et dont l'intelligence est insondable. Il donne force à qui est fatigué et accroît la vigueur du faible. Dieu dont l'intelligence est insondable. Dieu est bien au-dessus de nous. Alors maintenant, voyons quelques aspects historiques et géographiques de la période d'Isaïe. Tout d'abord, du point de vue extérieur. C'est un peu fastidieux parce que on est obligé de voir par tableau à la fois l'histoire extérieure, l'histoire du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Parce que depuis le schisme qui s'est produit 2 siècles auparavant, il y a donc cette distinction entre le royaume d'Israël, qui forme 10 tribus d'Israël, que vous avez sur la carte, et ensuite, au bas, le royaume de Juda, qui forme la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, tout aux alentours de Jérusalem. Donc, du point de vue de l'histoire extérieure, Isaïe a vécu au moment de la renaissance de la puissance assyrienne. Au départ, la Syrie, c'est simplement 200 km autour de Ninive, ici. Et ensuite, c'est une puissance qui va s'étendre de plus en plus jusqu'à donc rechercher à gagner tous les alentours de la terre promise. Et même au moment de l'apogée, du temps de Assurbanipal, on verra que la Syrie ira depuis l'Égypte jusqu'à la Perse. Donc toute cette partie-là sera sous le joug des Assyriens. Alors qu'au départ, c'est simplement 200 km autour de Ninive. Et après cette période de la Syrie, ce sera l'époque de l'apogée de Babylone. Donc ce sera le moment où les Hébreux seront envoyés captifs ici à Babylone. Et puis ensuite, ce sera le règne de la Perse, donc encore plus tard dans l'histoire. Mais là, donc, c'est la région qui est autour de Ninive qui, petit à petit, s'étend de plus en plus. Alors, quels sont les rois à cette époque? Au temps d'Isaïe, ce sera d'abord Tiglath-Phalazar III, de 745 à 727. Ces noms ne se trouvent pas. Hein. Au dos, vous avez les rois de Juda, et puis du royaume de Juda, et puis sur la gauche, il y a 5 rois, mais qui devraient être détachés, qui sont des rois d'Israël. Donc le nom des rois assyriens, Tiglath-Phalazar III, ensuite Salmanassar, Sargon II, Sennachérib, Assaradon et Assurbanipal. Donc quand vous entendrez ces noms-là tout à l'heure, vous penserez à Assyrie. Alors en plus, il faut distinguer l'Assyrie de l'Assyrie, à savoir la région de l'Empire assyrien de la province syrienne, qui est le royaume de Damas, qui se trouve ici. Alors maintenant, que se passe-t-il en ce moment-là en Israël? Il faut savoir que du point de vue du schisme, ce sont les 10 tribus d'Israël qui se sont séparées des autres. Donc les plus fidèles, c'est le royaume de Juda. C'est le royaume de Juda et de Benjamin. Et c'est pourquoi on verra qu'il y aura beaucoup plus de difficultés, et cela dans toute l'histoire du schisme, dans le royaume d'Israël que dans le royaume de Juda. Le royaume de Juda, il y aura quelques saints rois, ce qui n'est pas le cas du royaume d'Israël. Alors à cette époque, voyons un petit peu les rois d'Israël. Donc vous avez d'abord Zacharie. Alors Zacharie, ça se trouve sur votre feuille en 745 avant Jésus-Christ. Alors en fait, c'est celui qui se trouve donc sur la gauche et qui était un descendant de Jéhu. Donc ça, c'est le royaume d'Israël. Hein. Et les autres ne se trouvent pas. Donc tous les autres qui sont indiqués, c'est ce que l'on verra tout à l'heure du royaume de Juda. Donc Zacharie a eu pour prédécesseur Jéroboam, Joas, Joachas et Jéhu. Donc, il meurt en 745, il est assassiné par Chelum. Chelum, qui va être roi de 745 à 744, donc pendant un an, même pas un an, il va rester un mois, et il va être détrôné par Manahem, un véritable tyran, qui sera roi pendant 9 ans. Il va payer le tribut à Tiglath-Pileser III, donc au roi assyrien. Donc il va se soumettre au roi, au royaume d'Assyrie. Il sera remplacé par Faseya. Faseya, qui sera roi de 735 à 734, donc pendant un an, et qui sera assassiné par le général Fassé. Le général Fassé va régner pendant 20 mois, de 734 à 732. Il va s'associer au roi de Syrie pour empêcher l'extension de l'empire assyrien. Donc il va s'associer ici à la Syrie pour éviter le développement de l'empire assyrien. Il demande au roi de Juda de s'allier avec lui, mais ce dernier refuse, si bien qu'il lui déclare la guerre. Donc, dans le dos, vous avez donc le royaume d'Israël. Donc, il s'allie avec le royaume de Damas, en fait, qui se trouve en haut. Et il veut aussi s'allier avec le royaume de Juda. Mais comme le royaume de Juda refuse, il lui fait la guerre. Et alors, en ce moment-là, Tiglath-Pileser III vient au secours du roi de Juda, puisqu'il refuse de s'allier au roi de Juda contre le roi assyrien, l'empereur assyrien. C'est l'empereur assyrien qui vient aider le roi de Juda à combattre le royaume, le roi d'Israël et le roi syrien. Si bien que la Syrie va devoir capituler et elle va devenir une province assyrienne. Mais bientôt, Fassé sera assassiné à son tour par Osée. Et ce sera à cette époque qu'il y aura la prophétie de la Vierge enfantant. Osée sera roi de 731 à 722, donc pendant 11 ans. Ce sera le dernier roi d'Israël qui sera soumis à la puissance assyrienne. En 723, il fait alliance avec l'Égypte contre l'empire assyrien. Donc il va faire alliance ici avec l'Égypte pour éviter l'extension du royaume assyrien. Parce que l'Égypte commençait à avoir peur de l'empire assyrien, puisque cet empire s'avançait de plus en plus vers l'Égypte. Salmanassar, en ce moment-là, empereur assyrien, envahit Israël. Il fait le siège de Samarie, qui va tomber au bout de 2 ans. Et sous Sargon II, l'élite de la Samarie va être déportée en Assyrie. Et ce sera en ce moment-là que sera écrit le livre de Tobie, livre de l'Ancien Testament. Et il se trouve que la région de Samarie, qui sera en ce moment-là donc envoyée en exil en Assyrie, va, du point de vue de son culte, intégrer des éléments païens. Et ça donnera le peuple qu'on a appelé le peuple samaritain, et qui donc aura une partie de son culte qui viendra des Hébreux, et une autre partie qui viendra du culte païen. Et c'est pourquoi, donc, du temps de notre Seigneur, les Juifs avaient de très mauvais rapports avec les Samaritains, puisque les Samaritains avaient intégré des éléments, des faux dieux, dans leur culte. Alors maintenant, voyons le royaume de Juda. Alors là, vous pouvez suivre beaucoup plus facilement. Vous avez tout d'abord le premier roi qu'on va voir, 790-739, le roi Azarias. Vous voyez que le roi Azarias avait pour frère Amos, qui est à droite. Et Amos a eu pour fils le prophète Isaïe. C'est donc que le prophète Isaïe était le neveu du roi Azarias. Alors, Azarias était un roi lépreux. Et c'était un châtiment dû à son orgueil qui l'avait poussé à prendre les fonctions sacerdotales, alors qu'il n'était pas prêtre. Donc vous voyez que si aujourd'hui devait être lépreux ou lépreuse, tous ceux qui font des adaptes, ou tous ceux qui conduisent, qui font, parce qu'aujourd'hui c'est la mode des femmes qui font les enterrements aussi, et puis, eh bien... Il y aurait, les léproseries seraient pleines dans notre pays. Alors Joatan, Joatan ensuite sera roi de 739 à 733. Il sera assez fidèle à Yahvé. Il aura pour fils Akaz. Akaz de 733 à 727. Donc il restera quelques années simplement. Malheureusement, le roi Akaz sera l'un des plus mauvais rois que va connaître le royaume de Juda. Il va commencer à régner à 25 ans. Il sera immoral, idolâtre. Il va même immoler son fils au dieu étranger. Et sous son règne aura lieu l'invasion du royaume d'Israël et du roi de Syrie, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est alors donc qu'il va se déclarer le vassal de l'empereur assyrien afin de se défendre et qu'il va faire entrer le loup dans la bergerie. Il sera si éloigné de Dieu qu'il ne sera même pas enseveli parmi ses pères. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, on n'osera pas l'enterrer en même temps que ses pères. Ça aurait été comme une souillure que de l'enterrer au milieu de ses pères. Il sera remplacé par Ézéchias de 727 à 688. Donc là, il va régner pendant 40 ans environ. Alors Ézéchias, par contre, sera un roi pieux. Il va réparer les ruines de son père. Il va rouvrir le temple et restaurer le culte du vrai Dieu. Cela est rapporté au quatrième livre des rois, au chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, régna Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zécharia. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, ce qui est rare dans l'Ancien Testament, le roi qui fait ce qui est droit aux yeux de Yahvé, malheureusement il n'a pas beaucoup. Selon tout ce qu'avait fait David son père, il fit ce qui est droit. Alors maintenant on va voir qu'est-ce qu'il a fait comme bonne chose. Eh bien la première chose, il supprima les hauts lieux, brisa les pierres levées, coupa les akéras et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Donc parmi les bonnes choses qu'il a fait, les premiers, c'est donc de supprimer le culte des faux dieux. C'est la première chose. Et c'est le critère de son orthodoxie, c'est d'abandonner les faux dieux et de supprimer de son territoire tous les faux dieux. Alors quand on voit aujourd'hui que c'est les envoyés de Rome qui font poser les premières pierres des mosquées, ça paraît vraiment ahurissant. Alors pourquoi est-ce qu'il avait mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait ? Eh bien tout simplement parce que les Hébreux avaient tellement cet esprit d'idolâtrie qu'ils en avaient plus ou moins fait un dieu. Et c'est pour cela qu'il avait, en raison de cet attache désordonné qu'ils avaient eu envers ce serpent d'airain, il a mis en pièces pour éviter l'idolâtrie. Car les enfants d'Israël brûlaient jusqu'alors des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance dans Yahvé, Dieu d'Israël, et il n'eut pas son semblable parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent. Attaché à Yahvé, il ne se détourna pas de lui, mais il observa ses commandements que Yahvé avait commandés à Moïse. Et Yahvé fut avec lui, et il réussit dans toutes ses entreprises. Fin de l'empereur assyrien, mais il finit par prêter l'oreille aux envoyés du roi de Babylone, qui s'appelait Merodach Baladan. Donc, comme il écoute le roi de Babylone, cela ne va pas plaire à l'empereur assyrien, si bien qu'il va déporter une partie du peuple de Juda en Assyrie en 701. Finalement, Sennachérib, qui est alors le roi assyrien, va faire le siège de Jérusalem. Mais Dieu va intervenir en anéantissant l'armée ennemie devant la capitale. Et on verra ce passage tout à l'heure. Ézéchias meurt dans la justice. Il est remplacé par Manassé. Manassé qui sera roi de 688 à 641. Je vous ai dit que c'était un bon roi, mais malheureusement, les bons rois sont rares. Et donc, son fils va détruire l'œuvre de son père. Manassé va détruire l'œuvre de son père. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rouvrir les portes aux dieux étrangers. Donc c'est toujours pareil, c'est le même esprit. Il sème la terreur en Juda. Il dépouille les grands pour s'enrichir. Son orgueil sera puni lorsqu'il essaiera de se débarrasser du joug assyrien avec Babylone. Donc il fera une alliance avec Babylone pour essayait de se débarrasser du joug assyrien. Finalement, il sera amené à Babylone lui-même par Assurbanipal, mais la captivité va changer son cœur, si bien que de retour en Juda, il va purifier son territoire de ses idoles, encore comme signe d'orthodoxie, et bientôt il meurt. Et malheureusement encore, Amon, son fils, de 641 à 639, interrompt l'œuvre de son père, mais il est à son tour assassiné 2 ans après. Donc vous voyez un petit peu le contexte du prophète Isaïe. C'est très important parce que quand on lit le prophète, les prophéties, on a du mal à se imaginer un petit peu quelle était l'ambiance dans laquelle ils ont vécu. Donc ça permet de mieux comprendre les événements de la vie d'Isaïe. Alors maintenant, arrivons à Isaïe quand même. C'était quand même le but. Isaïe est né à une date inconnue entre 775 et 760 avant Jésus-Christ. Isaïe signifie « Dieu est le salut ». C'est le fils d'Amos, nous l'avons vu, lui-même frère du roi de Juda. Cette proximité avec les rois va expliquer les liens qu'il va avoir avec eux. Son ministère se passe à Jérusalem. Il est marié et il a 2 enfants. Ça peut aussi nous étonner, mais c'est comme ça. Vocation prophétique d'Isaïe. Enfin, ça nous étonne sans nous étonner, puisque dans l'Ancien Testament, encore une fois, la virginité était à peu près inconnue. Vocation prophétique d'Isaïe. L'année de la mort du roi Ozias, ou Azarias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône haut et élevé, et la traîne de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient devant lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, de 2, ils se couvraient les pieds, et de 2, ils volaient. Et se répondant l'un à l'autre, ils disaient « Saint, 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 et Yahvé des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est le début du Sanctus. Les fondements des seuils tressaillaient au bruit de la clameur et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Donc maintenant c'est Isaïe qui parle. Car je suis un homme aux lèvres souillées et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées. Et mes yeux ont vu le roi Yahvé des armées. Donc parce qu'il a eu cette vision presque de Dieu, en quelque sorte, il pense que des malheurs vont lui arriver. Puisque normalement, dans l'Ancien Testament, on imaginait qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Vois, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché remis. » Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Donc c'est comme ça que Isaïe commence sa mission. Sa première action se passe lors de la guerre syrio-éphraïmite, donc la guerre de la Syrie et du royaume d'Israël, sous le roi Akaz. Isaïe, invite le roi Akaz à mettre sa confiance en Dieu, et non au souverain assyrien. Mais Akaz ne l'écoute pas. Il se soumet à l'empereur assyrien, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est en ce moment-là qu'a lieu la prophétie de la naissance de la Sainte Virginale de l'enfant Jésus. Deuxième action sous le roi Ézéchias. Tout d'abord, la maladie d'Ézéchias. On annonce à Ézéchias qu'il va mourir. Et là aussi, c'est intéressant pour nous, ces exemples de l'Ancien Testament, parce que de la même manière que Ninive, vous vous rappelez, on avait annoncé que Ninive devait être détruite, dans 40 jours Ninive serait détruite, et Ninive n'a pas été détruite, au point que le prophète Daniel était furieux parce qu'il a dit, eh bien maintenant si je prophétise et que la prophétie ne se réalise pas, eh bien ça ne vaut pas le coup. Pour qui on va me prendre? Eh bien les prophéties sont toujours conditionnelles. Il est toujours possible de revenir vers Dieu. Et quand même tout semble impossible, la situation humainement semble impossible, en recourant à Dieu, si c'est sa volonté, ça peut changer. Et ainsi on annonce à Ézéchias qu'il va mourir de la part de Dieu. Alors Ézéchias pleure et Dieu lui accorde 15 ans de plus. Je l'avais dit d'ailleurs même pour un fidèle d'ici, il prierait, qui pleurait aussi parce qu'il ne voulait pas mourir. Et je lui avais rapporté ce passage de la Sainte Écriture, mais malheureusement bon, le bon Dieu l'a rappelé à lui. Mais malgré tout, eh bien, selon le dessein de Dieu, quand humainement une situation est désespérée, il ne faut pas malgré tout perdre confiance. Le bon Dieu peut changer le cours des choses. Donc Dieu va accorder 15 années de plus à Ézéchias. Et comme preuve que Dieu lui a exaucé, sa prière, il va lui donner le signe de faire reculer le soleil de 10 degrés sur le cadran. Donc le soleil, au lieu de se coucher, il va se relever de 10 degrés. Sous ce même roi Ézéchias, il va y avoir l'ambassade du roi de Babylone. Le roi de Babylone, Merodach-Baladan, envoie une ambassade à Jérusalem pour se concilier Ézéchias contre Sennacherib, donc contre l'empereur assyrien. Donc le roi de Babylone essaie de se concilier Ézéchias contre l'empereur assyrien. Ézéchias est flatté par tant d'honneur, il va étaler toutes les richesses de son royaume devant l'ambassadeur, et Isaïe va l'en réprimander à cause de la vaine gloire qu'il en a tirée, et il va lui faire savoir que ses descendants iront en exil à Babylone. Donc deuxième intervention du prophète Isaïe. Ensuite, c'est le siège de Jérusalem par Sennacherib, l'empereur assyrien. L'empereur assyrien va commencer par envahir la Phénicie, que vous voyez également sur votre carte, au bord de Tyr et de Sidon. Ensuite, il va descendre jusqu'à la Philistie, donc le pays des Philistins. Et finalement, il va faire le siège de Jérusalem. En voyant ça, en voyant ce siège, Ézéchias envoie une ambassade pour essayer de négocier la paix. Et l'empereur assyrien, Sennacherib, il accepte la paix, mais à une condition, à deux conditions. La première, c'est de payer un lourd tribut, c'est toujours l'argent. Et ensuite, la deuxième condition, c'est de pouvoir visiter de fond en comble Jérusalem. Et Ézéchias refuse. Et Isaïe, justement, encourage Ézéchias et lui promet la délivrance. Et voilà qu'en une nuit, 185 000 hommes du camp des Assyriens sont tués par l'ange du Seigneur. Donc là, c'est une intervention providentielle de Dieu qui va mettre à mort 185 000 hommes de l'armée ennemie. Cela est décrit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 37. Enfin, d'ailleurs, beaucoup de ces passages se trouvent dans plusieurs passages de la Sainte Écriture. Ainsi, on le retrouve également au quatrième livre des Rois et au deuxième livre des Chroniques. Ézéchias ayant reçu la lettre, là c'est encore intéressant, ce passage, c'est pour vous montrer toujours le sens de Dieu qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Donc c'est bien en Dieu que le roi Ézéchias met sa confiance pour lutter contre ses ennemis. Ézéchias ayant reçu la lettre des messagers la lut. Puis Ézéchias monta à la maison de Yahvé et la déploya devant Yahvé. Et Ézéchias fit cette prière à Yahvé. Yahvé des armées, Dieu d'Israël, siégeant sur les chérubins, c'est vous qui êtes le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, vous qui avez fait le ciel et la terre. Yahvé, prêtez votre oreille et entendez. Ouvrez vos yeux et regardez. Entendez toutes les paroles de Sennacherib qui a envoyé insulter au Dieu vivant. Il est vrai que les rois d'Assyrie ont dévasté tous les pays avec leurs terres et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Car ce n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, bois ou pierre, et ils les ont détruits. Maintenant, Yahvé notre Dieu, sauvez-nous de ce roi, et que tous les royaumes de la terre sachent que vous êtes Yahvé, vous seul. Et Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi dit Yahvé, Dieu d'Israël, quant à la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assyrie, voici la parole que Yahvé a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête derrière toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et porté les yeux d'en haut? Contre le Saint d'Israël. Donc après, il y a des tas de considérations qui montrent que le bon Dieu donc, va secourir Ézéchias contre le roi assyrien. Et ce passage se termine en disant « Et l'ange de Yahvé se mit en campagne et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, tout cela était des cadavres. Et Sennacherib, roi d'Assyrie, ayant levé son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, donc le faux dieu, Adramélec et Sarécer, ses fils, le frappèrent de l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Assaradon, son fils, régna à sa place. Donc voilà, Sennacherib a voulu s'attaquer à Jérusalem. Et puis voilà comment est-ce qu'il a été puni. Il est mort assassiné. Et puis les 185 000 hommes sont morts. Donc ça montre qu'en période de crise, eh bien, on n'a rien à craindre. Le bon Dieu est avec nous. Il faut rester confiant. Le bon Dieu peut très bien mettre fin à la crise quand il veut, comme il veut. Ce serait pas le seul moment dans l'histoire de l'humanité qu'il y aurait des interventions miraculeuses. Ceci étant, avant d'entendre les miracles de Dieu, il faut aussi s'en rendre digne par notre conduite. Et non pas uniquement se tourner les pouces en attendant que ça se passe. Ensuite, bien sûr, il y a eu bien des épisodes encore dans la vie d'Isaïe, mais qui ne sont pas rapportés. Quant à sa mort, nous n'en savons rien de précis, sinon qu'une tradition juive fait de lui un martyr sous le roi Manassé. Il aurait été scié vers l'année 687. Et dans le passage de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 37, il y aurait une allusion, lorsqu'on dit que grâce à la foi, les uns furent torturés, d'autres lapidés, d'autres sciés. Un mot pour terminer du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, je vous ai dit, fait 66 chapitres. On peut le diviser en deux parties. La première partie, qui va jusqu'au chapitre 35, ce sont surtout des châtiments que Isaïe annonce. Certains qui auront lieu du temps d'Ozias, de Joatam, d'autres du temps d'Akaz, d'autres contre les nations étrangères et d'autres du temps d'Ézéchias. Ensuite, il y a un petit intermède, les chapitres 36 à 39, qui racontent l'histoire d'Ézéchias. Et ensuite, de 40 à 66, ce sont plutôt des chapitres de consolation. Après les châtiments de Dieu, ce sont les consolations. C'est d'ailleurs de là qu'on tire le passage Consolamini que l'on chante dans le temps de Carême. 49 à 55, c'est l'expiation par le serviteur de Yahvé, c'est ce qu'on a encore appelé la passion selon Isaïe, qui est très belle, passage qui est très beau. Et enfin, 56 à 66, l'annonce du royaume messianique. Alors, un mot tout d'abord de l'authenticité du livre d'Isaïe. Est-ce que tout le livre a été écrit par Isaïe ou simplement la première partie? Jusqu'au XVIIIe siècle, la réponse est unanime. Tout le livre d'Isaïe vient du prophète Isaïe. Mais au XVIIIe siècle, il y a une thèse critique de deux Allemands, d'Oderlin et... Alors là, c'est encore un nom allemand, mais je ne connais pas l'allemand, là. Alors je dois écorcher, mais Eschorn, je ne sais pas comment prononcer ça, qui est mort en 1787, hein, qui affirment que la seconde partie a été écrite après Isaïe, vers la fin de l'exil, à Babylone, donc par le Deutéro Isaïe, soi-disant, ou un auteur anonyme, soit un autre qui s'appellerait Isaïe, puis on a combiné les deux, ou un auteur qui aurait un autre nom. Cette thèse critique sera amplifiée au point qu'au début du siècle, on ne reconnaîtra plus que 20 chapitres provenant d'Isaïe, sur les 66 chapitres. En ce moment-là, il va y avoir un décret de la commission biblique, donc du temps où Rome était Rome. En ce moment-là, lorsqu'il y avait des thèses critiques qui étaient énoncées, eh bien Rome se penchait sur la question et essayait de conclure. Et donc le décret de la commission biblique de 1908 affirme qu'il est imprudent et téméraire de couper Isaïe en morceaux. C'est pas parce qu'il a été scié qu'on doit le couper en morceaux pour autant. Et depuis, aucun nouvel argument sérieux n'a pu être élaboré en faveur du Deutéro Isaïe. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous maintenons la position traditionnelle en faveur d'un seul Isaïe. Et en raison de l'argument utilisé toujours par l'Église, l'argument de tradition. Ce que l'Église a toujours cru, ce que l'Église a toujours enseigné. Du IIe siècle avant Jésus-Christ au XVIIIe siècle, on a toujours cru en un seul Isaïe. Donc il n'y a pas de raison de diviser son texte en morceaux. Quelles ont été donc les prophéties d'Isaïe qui ont été les plus marquantes? Vous avez d'abord celle qui annonce la naissance de notre Seigneur. La Vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ensuite, la mission du Sauveur, c'est dans la terre de Zabulon et de Nephtali qu'il doit commencer sa mission. Il aura un précurseur. On entendra la voix de celui qui crie dans le désert, préparez la voie du Seigneur. Ces miracles également sont annoncés. Dites au cœur chancelant, fortifiez-vous et ne craignez pas. Voilà votre Dieu qui vient lui-même et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds entendront, le boiteux bondira comme le cerf, la langue du muet sera déliée. Et notre Seigneur, vous savez, fait allusion à ce passage lorsqu'on lui demande, êtes-vous le Messie? Saint Jean-Baptiste lui demande, êtes-vous le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Dites, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Donc ça fait allusion à cette prophétie qui annonçait que le Messie accomplirait des miracles. Ensuite, ses souffrances et ses humiliations. Alors c'est les passages qui sont les plus émouvants. Il n'a ni éclat ni beauté. Nous l'avons vu et il était méconnaissable, méprisé, le dernier des hommes, homme de douleur. Il est familiarisé avec la misère. Son visage était obscurci par les opprobres et nous l'avons compté pour rien. Il a vraiment porté nos iniquités. Il s'est chargé de nos douleurs. Oui, nous l'avons vu comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous était dû s'est appesanti sur lui. Nous avons été guéris par ses blessures. Alors ce passage est très intéressant parce qu'il montre le lien étroit entre les souffrances de notre Seigneur et nos péchés. À part le passage de notre Seigneur qui dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, il n'y a pas d'allusion directe au rapport entre la passion de notre Seigneur et nos péchés, sinon que l'Église en a toujours parlé. Mais là, dans ces prophéties, on voit très bien le lien. Il a été blessé à cause de nos iniquités, c'est bien nous qui l'avons mis à mort. Il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous était dû, nous pécheurs, s'est appesanti sur lui, lui l'innocent. Nous avons été guéris par ses blessures. Ensuite, sa passion et sa mort. Il a été sacrifié parce qu'il l'a voulu. Donc là encore un autre aspect très important. Notre Seigneur n'a pas subi sa passion comme si c'était un incapable, comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Mais c'est bien parce qu'il a voulu. Il avait d'ailleurs dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc, et Jésus se taisait. Il sera conduit à la mort comme un agneau. Il est mort au milieu des angoisses après un jugement. Je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple. Je l'ai frappé, donc c'est Dieu le Père qui parle. Je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple. Le peuple, eh bien, c'est le peuple juif, mais c'est aussi nous. Donc c'est Dieu qui l'a conduit à la mort. Parce qu'il s'est livré à la mort et qu'il a été mis entre des scélérats. Donc, les scélérats, c'est bien sûr le bon larron et le mauvais larron. Et parce qu'il a prié pour les violateurs de la loi, je lui donnerai en partage un peuple nombreux. Donc c'est l'annonce ensuite des fruits de la passion, à savoir l'Église. Sa sépulture, sa résurrection et sa royauté universelle. On lui réservait la sépulture de l'impie, il a été enseveli dans le tombeau du riche. Donc, le tombeau d'Arimathie, de Joseph d'Arimathie. En ce jour-là, le rejeton de Jessé sera élevé comme un étendard à la vue des peuples. Le rejeton de Jessé, c'est David, notre Seigneur est descendant de David. Donc le rejeton de David sera élevé comme un étendard, c'est la croix qui sera élevée comme un étendard à la vue de tous, et puis également la croix qui domine toutes nos maisons. Les nations accourront vers lui, donc les peuples païens, et son sépulcre sera glorieux. Toutes les nations adoreront le rejeton de David. Donc vous voyez toutes ces prophéties d'Isaïe qui ont été décrites donc dans les moindres détails, 700 ans avant leur réalisation. Alors, conclusion de cette étude, eh bien, l'étude du prophète Isaïe et des prophètes en général nous a permis de mieux connaître ce rôle de prophète dans l'Ancien Testament. On a bien vu que les prophètes ont eu pour rôle auprès de leurs contemporains de rappeler ce que le bon Dieu attendait d'eux. Ils ont dénoncé les péchés à la fois du peuple et également des rois. Et ils ont rappelé la nécessité de suivre la loi de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Ils ont ensuite préparé la venue du Messie par les prophéties qu'ils ont annoncées. Et l'intérêt de cette étude dans ce contexte de crise de l'Église, qui est d'ailleurs l'intérêt de tout l'Ancien Testament aussi, c'est de montrer la nécessité d'adorer le seul vrai Dieu et de fuir les faux dieux par rapport à l'écuménisme. On le reverra encore la prochaine fois dans l'étude du prophète Élie. Dans l'Ancien Testament, eh bien, il n'était pas très écuménique. Et sur l'ordre de Dieu, c'était Dieu lui-même qui donnait l'ordre de briser les idoles. Autre intérêt de cette étude, de montrer, hélas, que déjà dans toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire même du peuple élu, pourtant du peuple choisi, ce n'est pas la majorité qui est fidèle, même parmi le peuple choisi. Donc, nécessité de s'attacher à la vérité sans se laisser impressionner par la loi du nombre. Enfin, c'est quelques considérations. Maintenant, vous pouvez vous-même tirer les fruits que vous voulez, que vous pouvez de cette étude. Donc nous terminerons la prochaine fois par ce cycle de l'Ancien Testament, par l'étude du prophète Élie. Et l'année prochaine, je ne sais pas encore, soit nous étudierons le catéchisme du Concile de Trente, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a le nouveau catéchisme qui est paru, donc c'est peut-être l'occasion pour nous d'approfondir les notions de catéchisme, de reprendre le vrai catéchisme, et puis de faire toujours un parallèle entre ce qui est enseigné dans le nouveau catéchisme et ce qui était enseigné donc dans le catéchisme de toujours, ou alors eh bien, je reprendrai d'autres livres de l'Ancien Testament que nous n'avons pas vu cette année, mais ça je verrai en fonction du temps et en fonction également de vos souhaits et de vos besoins. Voilà. Y aurait-il quelques questions?
Il y a beaucoup d'autres questions, la question de savoir comment il est mort, si en deux. Il y a beaucoup d'auteurs de Père de l'Église, du début de l'Église, qui affirment qu'il a été véritablement si en Dieu.
Oui, c'est
est-ce
ça.
Par Manassé ou sur de Manassé, on ne sait pas. Il me semble que ce n'est pas très précis.
Il y a même l'argument scripturaire de saint Paul, c'est sûr, en parlant de ceux qui ont été sciés. C'est sûr. C'est sûr, la question de sa mort.
Parce qu'il y a une plaisanterie un peu déplacée quand même maintenant, vu que les juifs ont coupé Isaïe en deux et les exégètes l'ont coupé en trois.
En trois, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ah oui, c'est sûr, c'est terrible.
Hein. Bien, c'est dans l'église conciliaire, dans l'église en général, en fait, tout le monde, quand on parle d'Isaïe, tout le monde.
Ah oui, oui.
Tous les théologiens ou tous les prêtres prétendent qu'il y a lui.
Au moins deux, sinon trois. Ah, c'est sûr. Même trois, oui, au moins. C'est pour ça que j'en ai parlé, d'ailleurs, parce que aujourd'hui, c'est la thèse commune. C'est vraiment la thèse commune.
Et au contraire, j'ignorais le décret de la
commission biblique
sur ce sujet. C'est en 1911
1908. 1908. Voilà.
Maintenant, je vais donner une petite remarque au sujet de Isaïe 38:8, c'est-à-dire le déplacement du cadran du roi de Juda, je ne sais pas bien si c'est Akaz ou Ézéchias, mais c'est pas du cadran. Mais c'est un phénomène concernant le mouvement de la terre sur elle-même.
C'est ça.
Mais il y a un récit analogue c'était à signaler, quelque chose analogue qui est dans un écrivain profane qui est Sénèque, qui parle de cet événement à peu près à la même époque.
Ah, oui.
J'ai eu ça, oui.
Ah,
oui. C'est dans Sénèque.
Ah oui, c'est intéressant. Bien, bien.
Ça fait qu'il y a trois phénomènes. Donc, il y a trois phénomènes du mouvement de la terre et du soleil dans la Bible. Exode 10, 21, 22, Josué 10, 12 et Isaïe 38, 8.
Les trois. Eh oui,
les perturbations cosmiques, il y en a eu dans l'histoire. Maintenant, on s'imagine qu'il n'y en a jamais, c'est pas possible, qu'il n'y en aura jamais. Mais...
C'est sûr.
C'est sûr.
Oui.
Ça rejoint une question que je me posais de savoir si les textes dans des luttes, qui se rapportèrent ces deux volets.
Ah ben c'est certain, oui. Ah oui, c'est certain, oui, bien sûr.
Quels sont les autres? Ce que je vois, c'est qu'à la fin de votre exposé, en plus, parallèle entre les différents auteurs. Si c'est possible, si vous pouvez le faire.
C'est-à-dire? Comparer la Bible avec les autres écrits.
Les auteurs des temps que vous avez évoqués.
Non, c'est pas bien. C'est quels sont les par les auteurs des temps? Parce que vous voulez dire les. Ce qui aurait pu être écrit par les rois de Babylone et tout ça à cette époque là. Ah ben ça je me suis pas plongé dans cette question. Ah oui, certainement qu'il doit y avoir des documents, hein, certainement. Certainement, mais alors ce qu'il y a justement de merveilleux dans la Bible, c'est que, par exemple, vous avez. Prenons par exemple Homère de Virgile. Quand on voit les textes les plus anciens que nous avons, entre l'époque où ils ont été écrits et les textes que nous avons, eh bien vous avez plus de 10 ou 15 siècles. Alors que quand vous avez les textes de la Sainte Écriture, eh bien vous avez entre l'original et puis les textes que nous avons, le temps est beaucoup plus court. Or, personne ne mettra en doute les écrits des auteurs païens. Mais je vous passerai un livre d'apologétique si ça vous intéresse. Ouais.
Pardon ?
Je vous passerai un livre d'apologétique si ça vous intéresse.
Dans ce domaine ?
Oui, oui.
Non, parce que je ne parle pas dans l'apologétique au sens général comme on l'entend actuellement. Mais, par exemple, l'exemple que vient de citer M. Lamer,
oui.
Sur le rattrapage du temps solaire, eh bien, c'est intéressant.
Ah, bien sûr que c'est intéressant. Bon, c'est pour ça qu'il en a parlé d'ailleurs. C'est une remarque intéressante.
C'était une question que je me posais au même moment, à ce moment-là. Mmh.
Très bien. Eh bien, on ne va pas faire reculer le cadran solaire de 10 degrés, alors donc, il faut aller se coucher.
Après,
on va voir. Après, merci.